PMU.fr est fier de soutenir Vue du Banc. Parce que pour bien parier, il faut bien comprendre le jeu.
Salut à tous, bienvenue pour le 21e épisode de la saison 4 de Vue du Banc, un épisode qui sera consacré aux deux premiers quarts de finale de cette Coupe du Monde, la victoire 2-0 de la France face à l'Uruguay et celle de la Belgique 2-1 face au Brésil. Pour cet épisode, non pas deux, mais trois invités. Je vais commencer par les réguliers pour finir en beauté. D'abord Florent Tonuti de Chronique Tactique, salut Florent.
Salut.
Et Raphaël Cosmidis de l'équipe, etc. Salut Raphaël.
Bonsoir Christophe.
Et donc notre invité, Belgique oblige, c'est Guillaume Gauthier de Sportfoot Mag, magazine belge. Et Guillaume Gauthier, homme de très grande qualité, qui a notamment écrit pour nous sur les cahiers du foot, etc. Qui est quelqu'un qui est déjà apparu dans notre podcast. Salut Guillaume.
Salut Christophe, salut tout le monde.
Heureux de cette qualification ?
Toujours pas vraiment remis, parce que j'étais parti dans une optique un peu « on va être éliminé, mais on va essayer de bien s'amuser ». Et donc j'ai passé une deuxième mi-temps très très difficile, un peu caché derrière un oreiller, comme si je regardais un film d'horreur. Sauf que j'étais devant un écran géant, mais finalement ça s'est bien passé.
Bon bah écoute, pour tout de suite faire redescendre la tension, on va partir sur le France-Uruguay, qui t'a un peu moins impliqué émotionnellement et qui était un petit peu plus fermé. Florent, qu'est-ce qui te reste comme ça, je vais dire à chaud, mais non là maintenant à l'heure où on enregistre, on est plutôt à tiède, mais de ce France-Uruguay? Finalement, on a un peu l'impression que la France a pris l'Uruguay à son propre piège en bloquant l'Uruguay dans les duels. Et à partir du moment où tu rivalises dans les duels, vu que tu as des meilleurs joueurs de foot, tu as quand même pas mal de chances de bien t'en sortir.
Ouais, à chaud, à tiède, même à froid, hein, parce qu'on n'est pas non plus monté en température sur ce match-là. Les Français ont fait, comme tu l'as dit, le match qu'il fallait face à l'Uruguay en répondant très bien sur les points forts uruguayens. Il y a des joueurs qui ont été dominants, même si, par exemple... Je crois que c'est Pogba qui a un record de duel gagné sur ce match-là.
Ouais, 14.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et voilà, Pogba au milieu, Giroud devant, Kanté qui a été assez exceptionnel pour ratisser et couper toutes les tentatives de transition. On savait que les Uruguayens allaient avoir beaucoup de mal déjà pour ressortir le ballon à partir du moment où Cavani n'était pas là. Ça s'est révélé vrai et encore plus vrai parce que les Français leur ont pas laissé la moindre chance à ce niveau. Avec un milieu qui a été très dominant, et puis derrière et devant. Enfin voilà, quand tu vois le premier but marqué, c'est un petit peu comme ce que certains aiment bien dire comme un symbole, le fait que ce soit Varane qui mette sa tête et qui domine dans les airs. Je crois que c'est Vecino qui est dépassé. Mais voilà, ça résume un peu ce match où au final, il s'est pas passé grand-chose, mais la France a dominé dans les secteurs où à la base on attendait les Uruguayens. Et les Français ont répondu sur les points forts uruguayens et ils ont montré qu'ils étaient plus forts qu'eux à ce niveau-là. Ce qui fait qu'après, pour ce qui était de produire du jeu, etc., c'était pas la peine. Le nécessaire était fait en ayant mis le premier but.
Raphaël, je vais tout de suite te lancer par une question parce qu'on a eu pas mal, énormément de questions. Il va falloir faire un sacré tri. De Non et Toi qui nous demande quels ont été nos défauts sur ce match, contrôle du tempo, agressivité, possession haute en fin de match. On a montré tout ce qu'on ne savait pas faire avant. Du coup, est-ce que pour toi, il reste encore des défauts ? Ou alors, est-ce que, en tout cas, dans le contexte de ce match-là, c'est entre guillemets une copie parfaite ?
Il reste tout de même le défaut de ne pas s'être créé beaucoup d'occasions dans le jeu, même pas une peut-être, sauf si on considère la frappe de Griezmann comme une occasion, mais c'est plus une occasion offerte par Mousselera, mais je n'ai pas souvenir de beaucoup d'occasions créées sur attaque placée, alors que c'est une équipe qui t'a forcé à jouer comme ça.
Donc, la tête de Mbappé où il saute un peu à contre-temps, voilà, mais sinon il est seul au point de pénalty.
Voilà, c'est celle-là. Je crois que c'est la seule, il me semble en tout cas. Bon, l'équipe de France finit quoi, 0-5 d'expected goal, un truc comme ça, 0-53. Ouais, 0-53. Donc c'est bien la preuve qu'il n'y a pas eu de grosse occasion pour l'équipe de France. Il y a eu une espèce de mini temps fort entre la 10e et la 20e à peu près. Et puis ensuite, ça s'est éteint assez rapidement. D'ailleurs, sur le match, le Uruguay finit à quasiment deux fois plus d'expected goals. Bon, c'est pas toujours fidèle à la réalité du match, et on a rarement senti l'Uruguay supérieur. Je pense qu'il y a un petit temps fort en fin de première période, mais sinon, il n'y a pas vraiment eu de gros temps fort. Mais c'est aussi le cas de cette équipe de France, là, de Didier Deschamps, qui monte jamais très haut en performance, qui descend jamais très bas non plus, de toutes les équipes qu'on a vues de cette Coupe du Monde. Alors, on parlera de la Belgique et du Brésil tout à l'heure, mais je pense que c'est l'équipe la plus constante, sans être jamais brillante, en fait, parce qu'il y a des équipes qui ont été capables de séquences exceptionnelles, de matchs superbes à voir. L'équipe de France, on n'a pas claqué un constant, contrôlé, maîtrisé de la première à la 90e minute tout en mettant du jeu, en étant brillant, en envoyant des séquences séduisantes et en se créant beaucoup d'occasions. Mais paradoxalement, les matchs qu'elle aime le plus, c'est peut-être ceux-là contre l'Uruguay, où tu n'as pas besoin de te créer grand-chose, et à partir du moment où tu as été efficace, tu te retrouves dans un plan qui te va bien. On a vu de la possession défensive, on a vu en effet un contrôle du tempo, notamment avec des Varane, des Tolisso, des Griezmann qui savent à quel moment il faut aller chercher à faire la différence, à quel moment il n'y a plus besoin de le faire. Donc c'est une équipe qui est toujours entre 5 et 7 sur 10, on va dire. Mais elle ne monte jamais plus haut que ça, et c'est aussi pour ça que quand tu sors du match, tu as un sentiment assez mitigé où tu t'es dit c'est solide, c'est cohérent, c'est limite une équipe qui semble apprendre très vite à contrôler ensemble. De là à apprendre à jouer ensemble et à emballer un match ensemble et à accélérer ensemble, je sais pas. C'est pour ça que c'était mon sentiment à la fin de la, à la fin du match, ou même quasiment à la fin de la première période. C'est bien, il y a du mieux. Il y a eu pas mal de déplacements entre les lignes intéressants. Mbappé et Tolisso sont intelligents dans ces zones-là. Mais en revanche, t'accélères quasiment jamais dans les 30 derniers mètres. Et la séquence où Mbappé finit par centrer après avoir dépassé l'axe alt et il n'y a personne au centre, je pense qu'elle incarne assez bien cette équipe de France. Ou même les moments où t'accélères sans vraiment impliquer tout le monde. Et c'est pour ça que tu t'en sors sans faire une énorme performance offensive comme celle du Brésil qui était éliminée malgré ça, paradoxalement.
Guillaume, il y a Aendel qui nous dit « Ce serait pas un vrai bon match de papa de l'équipe de France par hasard. » Toi qui étais pas impliqué émotionnellement sur cette rencontre, est-ce que t'as aussi senti que l'équipe de France a géré le match à sa main ? C'est le sentiment que nous, on a, alors que finalement, il y a Lloris qui fait une parade énorme, que je peux te retrouver un partout en deuxième période, enfin toute fin de première, mais tu peux aborder la deuxième période à un partout, et tu peux peut-être avoir des doutes. Est-ce que toi, tu as senti que l'équipe de France gérait parfaitement le truc, ou alors, malgré tout, ça aurait peut-être pu tourner si les événements avaient été contraires ?
J'ai trouvé qu'il y avait surtout un moment de fébrilité en début de seconde période qui se traduit pas vraiment par des occasions de l'Uruguay en fait, mais on voit par exemple Suarez apparaître un peu plus souvent aux abords de la surface. Je pense que c'est le moment aussi où il y a la frappe contrée de Bettencourt après l'erreur de Umtiti. Je pense que c'est toujours à 1-0. Et à ce moment-là, on sent pas de la fébrilité, mais on a l'impression que l'Uruguay est peut-être en train de prendre un peu la main sur le match. Et puis, il y a le but de Griezmann qui vient surtout d'une énorme erreur de Muslera, parce que je pense que Loris Karius avait eu une commotion, à mon avis, Muslera, et il a dû se passer quelque chose aussi.
Interdiction d'évoquer cette séquence de football dans l'émission Vue du banc, Guillaume.
Donc, pour ne pas parler de Liverpool, je pense que c'est le seul moment où l'équipe de France perd peut-être un peu le contrôle de la rencontre, qu'elle a eu surtout en grande partie grâce au volume de Pogba et de Kanté au milieu de terrain. Et aux apparitions de Griezmann qui a eu l'intelligence de décrocher pour venir demander des ballons et pour contrer un peu le triangle axial très fort de l'Uruguay, puisque Bettencourt allait presser très haut, donc Griezmann a un peu recréé un 3 contre 3 dans cette situation-là où sa qualité technique et celle de Pogba ont fait la différence et ont permis à la France finalement d'avoir une maîtrise assez tranquille de ce milieu de terrain où l'Uruguay avait pris l'habitude de récupérer pas mal de ballons et de lancer ses offensives. Après, c'est clair qu'on en reparlera pour la Belgique tantôt, mais autant l'absence de Casemiro a été très préjudiciable pour le Brésil, autant celle de Cavani s'est vraiment fait ressentir parce qu'on n'a jamais eu l'impression que Stuani était capable de combiner avec Suarez comme Cavani a pu le faire dans les matchs précédents. Et je pense que c'est ce qui fait la différence entre un Uruguay très difficile à jouer et un Uruguay très difficile à jouer et qui peut te mettre un but un peu de nulle part. Ici, on avait moins cette sensation que l'Uruguay pouvait marquer à tout moment en fait.
Transition parfaite pour une question d'Omar Miton, Florent, qui nous dit « Avait-on surestimé l'équipe uruguayenne, sous-estimé le rôle de Cavani au niveau offensif ou aucun des deux ?» C'est vrai que alors Stuani a des bonnes qualités, notamment dans le domaine offensif, mais il faut que ton bloc soit quand même suffisamment haut pour que tu puisses le trouver et que ses déviations soient à 20 mètres du but et pas à 40 mètres. Et en plus, il n'a pas autant dominé dans les airs qu'habituellement. Là, il a perdu plus de duels qu'il en a gagné. Donc finalement, tu ne pouvais pas passer par les airs, et quand tu passais par le sol, soit tu manquais de qualité technique à la première relance, soit tu avais Pogba et Kanté qui étaient sur ta route, et donc du coup, tu étais vite coincé. En fait, l'Uruguay n'avait pas non plus 15 000 solutions sans Cavani.
Bah non, c'est ça, oui. De toute façon, on avait évoqué ça dans le podcast préparant le quart de finale, quand on avait parlé de la qualif de la France et de l'Uruguay justement au tour précédent. Mais il était évident que sans Cavani, ils auraient beaucoup de mal à créer. On a vu depuis le début du Mondial l'importance qu'il avait à la fois dans les 30 derniers mètres, mais aussi pour faire remonter le bloc et permettre à l'équipe de s'installer dans la moitié de terrain adverse, même si ce n'était pas forcément pour de très longs temps de jeu. Mais il était capital pour ça, que ce soit en demandant la balle ou en faisant les courses qui vont... qui vont embarquer des adversaires, je vais y arriver, et qui vont libérer des espaces pour ses milieux. Et le fait de ne pas l'avoir, ça a vraiment plombé l'Uruguay, et ça en a fait une équipe presque normale au final par rapport à ce qu'ils avaient montré face au Portugal. Mais de toute façon, c'est un petit peu l'histoire de cet Uruguay, je crois, depuis sur les dernières années. Il me semble avoir vu passer une stat où sur les matchs où ils n'ont pas Suarez ou pas Cavani, donc l'un des deux est absent, je crois qu'ils n'en ont pas gagné un seul. Ça résume pas mal les choses. Et le fait est que cet Uruguay-là, s'il avait toujours sa gara pour bien défendre, il n'était absolument plus dangereux. Et du coup, les Français, en répondant là où il fallait, comme je le disais tout à l'heure, et en étant efficace dans les situations où on attendait aussi les Uruguayens dangereux, c'est-à-dire sur coup de pied arrêté, ça a suffi pour faire la différence. Mais oui, l'absence de Cavani pèse énormément dans le match-up, même si, quand on voit le match, je pense pas non plus qu'il aurait suffi à inverser le résultat. Mais il y aurait sans doute eu peut-être un peu plus de frayeur pour les Français défensivement. Mais ça n'aurait pas, je pense, fait basculer l'issue du match non plus, quoi.
Raphaël, il y a Bourrico qui nous signale que Luis Suarez n'a pas touché un seul ballon. Je sens que le pseudo t'amuse. Oui, Suarez n'a pas touché un seul ballon dans la surface française pendant tout le match. Ton analyse, est-ce que c'est quoi ? Est-ce que c'est Kanté, Pogba, n'importe quoi ? Kanté, Pogba, qui sont vraiment les deux noms qui reviennent le plus dans les questions, etc., dans les analyses d'après-match. Est-ce que c'est Cavani ? Est-ce que c'est les deux ? Est-ce que c'est Bentancur qui ne fait pas les bonnes choses ? Ou est-ce que tu places le curseur ? Bien sûr, tu vas me dire que c'est un peu tout, mais s'il fallait quand même soulever un truc plus qu'un autre.
Ouais, je pense qu'il y a aussi, si on doit parler des ballons dans la surface et du rôle de Suarez, il y a aussi Umtiti et Varane, et même surtout Umtiti et Varane, parce que l'Uruguay a beaucoup centré. Hein, je suis en train de regarder le nombre de centres. L'Axel Tête à 5, Torreira à 5, Caceres à 5. Après, t'en as en gros une dizaine. Ils doivent être à 25 centres au final sur l'ensemble de la rencontre, ou 23 peut-être. Donc tu es sur une équipe qui centre beaucoup, dont c'était la seule solution quasiment sur attaque passée pour faire des différences, parce que tu n'avais pas d'attaquant mobile devant, et les petits déplacements, les combinaisons n'étaient pas possibles avec Suarez et Stoney qui n'ont jamais été des joueurs de 1-2, de 1-2-3, donc tu t'en remets à ça, et là-dessus, je crois que je ne sais même pas combien, il y en a deux qui sont réussis sur 23, deux centres réussis sur 23, et c'est aussi parce que Umtiti et Varane, et on en avait déjà parlé lors des tours précédents, et notamment contre le... Je ne sais pas quel match l'équipe de France a joué un peu plus bas, il y avait une bonne défense contre le Pérou peut-être.
Ouais, Pérou. Pérou.
Et ils avaient très très bien défendu la surface, et là ça a été un peu la même chose, avec un... pas forcément Umtiti, parce que Umtiti arrivait à bien la défendre la surface, par contre au moment où il récupérait le ballon, il était souvent mis facilement en danger en voulant relancer proprement, il n'était pas assez réactif et rapide dans sa vitesse d'exécution pour relancer proprement. En revanche, Varane a été souverain dans ce domaine-là. T'as aussi l'avantage d'avoir un mec comme Pavard qui au second poteau est quand même assez grand pour défendre les centres, et en tant que latéral c'est plutôt intéressant. Hernandez qui est intelligent dans la défense de ces zones là, donc ça fait beaucoup de choses qui te permettent de bien défendre la surface.
Je te coupe là-dessus justement, les stats de dégagement des Français, ils finissent à 45 dégagements contre 15 pour l'Uruguay.
C'est énorme, ouais.
Et surtout quand tu parles justement des latéraux, Pavard finit à 5 dégagements et Hernandez à 8. C'est record du match avec Umtiti. Varane est à 7, et en plus, t'as aussi Pogba qui finit à 5,
et Giroud
à 4, et même Nzonzi qui est rentré 10 minutes à peu près, ouais, c'est ça, une dizaine de minutes, il finit à 3 dégagements. Donc voilà, à ce niveau-là, sur la défense de la surface, à nouveau, les Français ont en effet été très très bons.
Mais je trouve que tu l'as senti, cette domination athlétique, comme tu l'as un peu senti par moment, on a parlé tout à l'heure avec la Belgique, vraiment dans des moments où athlétiquement tu les sentais plus forts sur les ballons aériens. Et ça a vraiment fait beaucoup de mal à l'Uruguay, parce que c'est un secteur qu'ils ont l'habitude de maîtriser. Ils ont l'habitude d'être supérieurs à l'adversaire. Là, une fois que qu'ils étaient privés de ça, tu voyais pas trop comment ils pouvaient marquer des buts. Et d'ailleurs, à part les coups de pied arrêtés, ils ont pas eu grand-chose. Donc c'est ce qu'on avait dit un peu sur l'équipe de France jusque-là. C'était peut-être la meilleure équipe défensivement de la compétition, avec l'Uruguay justement. Et sur ce match-là, c'est l'équipe de France qui a été meilleure défensivement, malgré des effets de goals qui sont pas fidèles à ce qui s'est passé sur le terrain, mais tu les as sentis vraiment en contrôle. Et là-dedans, le match de Varane, qui monte en puissance depuis le début de la compète, est vraiment exceptionnel, parce qu'il maîtrise à la fois le fait de défendre la profondeur. Il y a eu quelques séquences où il maîtrisait bien la profondeur, et puis dans la surface, de renvoyer un peu tout. Et là, sur l'ensemble de la compétition, je pense que c'est... On parlait de Thiago Silva l'autre jour. Là, si tu dois faire un 11 de la compète, c'est peut-être l'autre central que tu places dans le 11.
Guillaume, tout à l'heure, tu parlais de Griezmann. Alors, une question de Max Brog qui implique Griezmann indirectement. La question, Giroud était indéboulonnable parce qu'il marquait. Maintenant qu'il ne marque plus, que pensez-vous de son apport dans le jeu et par conséquent du positionnement de Griezmann qu'on ne sent pas toujours à son aise pour distribuer le jeu? En sachant que du coup, le positionnement assez bas de Griezmann, comme tu me disais tout à l'heure, sans ballon, ça a aussi des implications où il est peut-être plus utile que d'autres. Après, avec ballon, est-ce que pour toi, il justifie ce rôle un petit peu de 9,5-10?
Mais je pense que on parle quand même d'un joueur qui a une qualité non seulement technique, mais aussi de lecture du jeu et des événements un peu hors normes. Et j'avais lu des réactions de Simeone il y a quelques semaines qui parlait de ça, qui disait que parfois Griezmann quittait la zone qu'il lui attribuait, mais c'était pas grave parce qu'il lisait tellement bien le jeu que s'il le faisait, c'est parce que le jeu le demandait. Et aujourd'hui, Griezmann, paradoxalement, il apparaît dans les statistiques, mais il a été beaucoup plus effacé dans les rares offensives de l'équipe de France, mais parce qu'il a eu ce feeling du fait que son équipe avait plus besoin de lui, peut-être dans un rôle de numéro 10, que vraiment de 9,5. Sur le rôle de Giroud, c'est vrai que c'est certainement pas l'attaquant le plus spectaculaire, mais au final, c'est celui qui correspond le plus à ce que Didier Deschamps demande à son équipe. Il nettoie un peu la zone de Griezmann en agrandissant sa zone d'influence, en gagnant quand même la plupart de ses duels. Ici, j'ai pas vu les chiffres du match de l'équipe de France, mais je pense que Giroud n'a pas été ridicule dans les duels face à Godin et Jiménez, qui sont clients.
Giroud est à 7 duels aériens gagnés sur 10, alors que les deux défenseurs sont à 3 sur 16.
Oui, donc, voilà. Alors qu'on parle quand même de Godin et Jiménez, qui dans les airs sont pas les plus mauvais défenseurs de la Coupe du Monde, je pense. Donc voilà, c'est un joueur qui permet malgré tout à l'équipe de France de respirer et de pas trop se prendre la tête sur la sortie de balle, parce que je pense que c'est pas spécialement le gros kiff de Didier Deschamps de multiplier les passes à la construction pour créer des surnombres bien travaillés, etc. Je pense que plus le ballon est loin, et s'il parvient à le faire monter de 50 mètres en mettant un ballon sur Giroud avec la vitesse de Mbappé et la lecture du jeu de Griezmann autour de lui, c'est finalement pas le profil le plus sexy de l'attaque de l'équipe de France, mais c'est un profil qui complète bien et qui parvient à rendre peut-être plus puissant ce que peuvent faire Griezmann et Mbappé.
Florent. Question de Florian Jaconneau. Est-ce que la réussite totale avec deux tirs cadrés de but des Bleus durant ce match ne fausse pas un peu notre analyse, notamment la capacité des Bleus à avoir fait sauter le verrou uruguayen? Est-ce que tu penses que tôt ou tard, pour reprendre Thomas Meunier, la France aurait fini par ouvrir le score et marquer un but? Ou alors c'est le fait de te mettre à 1-0 qui du coup te donne un match entre guillemets facile?
C'est assez difficile à dire. Après, je trouve qu'il dominait tellement... globalement par rapport aux transitions, c'est-à-dire que territorialement ils dominaient beaucoup, donc ils allaient avoir plus de chances d'obtenir des coups de pied arrêtés et donc sans doute plus de chances de marquer. Après, de toute façon, le jugement, notre jugement n'est pas faussé par le score. Là, on insiste surtout, tu vois, depuis le début, sur leur capacité à avoir su surtout éviter d'être mis en danger par l'Uruguay. Mais ensuite, on n'a pas du tout parlé de jeu ou de qualité véritablement dans les 30 derniers mètres, ou de qualité pour se procurer des occasions et pour attaquer, même si on pourrait parler du match de Mbappé et des dégâts qu'il a fait en termes de percussion, même si au final, il n'y avait pas grand-chose à l'arrivée. Mais au final, ils ont fait le match qu'il fallait face à un adversaire dont on savait qu'il n'allait rien donner, c'est-à-dire que face à l'Uruguay, si tu n'es pas efficace... tu te retrouves forcément sous la menace. Là, ben voilà, ils ont eu leur occasion sur coup de pied arrêté, ils l'ont mise et ils ont fait en effet le plus dur. Mais je pense pas que le jugement soit faussé ou quoi que ce soit. On a insisté sur les points forts de l'équipe de France et qui se confirment match après match, on va dire, cette solidité défensive et cette maîtrise, cette domination sans doute aussi athlétique dans les duels et dans la zone qui compte, en tout cas la zone de vérité quand il faut défendre leur propre surface de réparation. Mais ensuite, offensivement, c'est vrai que c'est resté laborieux sur ce match aussi. Mais là, par contre, il faut quand même se rappeler qu'en face, c'était l'Uruguay. Et c'était la deuxième meilleure défense du tournoi, justement derrière la France en termes d'expected goals avant ce match. Et même s'ils ont été dominés dans les airs, ils n'allaient pas non plus ouvrir toutes les portes pour nous mettre en difficulté. Enfin, voilà. Mais à côté de ça, c'est vrai que si on veut rentrer dans le détail et parler de choses qui fâchent, il y a pas mal de séquences avec la balle où il y avait beaucoup mieux à faire. Il y avait aussi un problème de soutien, sans doute des attaques. Un Mbappé qui donne l'impression parfois d'aller trop vite, même pour ses propres coéquipiers. Je sais pas si vous vous rappelez de cette action, je crois que c'est en deuxième mi-temps, où il dépose l'axe. Non, c'est en première mi-temps. Il dépose tout le monde dans le couloir, il dépasse l'axe salte, il va pour centrer en retrait, et en fait, le premier soutien français, il est 40 mètres derrière.
Ouais, j'en parlais tout à l'heure. C'est Griezmann qui a pas foncé, qui a pas piqué dans la surface. Et il centre, parce qu'il est obligé de centrer, il est en bout de course, mais il y a que des Uruguayens, ouais.
Et donc voilà, c'était juste pour dire ça, c'est-à-dire que sur ce match-là, la France passe, oui, bon, ben, bravo, mais c'est-à-dire elle a été forte là où on s'attendait à ce qu'elle le soit, et là où il fallait qu'elle le soit par rapport à un Uruguay qui n'avait que ça à proposer, c'est-à-dire mettre beaucoup d'impact dans les duels et de la présence dans les airs et sur coups de pied arrêtés. Bon, mais les Français ont été plus forts dans ces secteurs-là, ils sont passés, bravo à eux. Mais il faudra sans doute. En fait, c'est ça qui est un peu spécial avec les Bleus, c'est que chaque match, vu qu'ils n'ont pas forcément de plan prédéfini ou de projet de jeu très élaboré, comme on peut voir avec la Suède ou avec la Belgique, même si, bon, pour le coup, en affrontant le Brésil, ils ont changé. Mais voilà, une équipe qui va toujours développer les mêmes choses match après match, etc. Les Français, il faut quasiment qu'à chaque match, ils répondent à des problèmes différents. Et jusqu'ici, ça se passe bien parce que y a deux solutions. Parce que déjà, les mises en place sont plutôt bonnes pour aborder ces rencontres-là. L'accent est mis sur les bonnes choses. Et en plus, à côté de ça, Deschamps a quand même une liste qui est plutôt réussie. On en avait parlé au tout début de la compétition, une liste qui est plutôt réussie dans le sens où il a quand même un réservoir de joueurs qui lui offre beaucoup de solutions et beaucoup de possibilités sur le plan tactique et qui lui permet de répondre justement à des problèmes différents match après match, quoi.
Ouais, et sur l'affrontement des blocs bas qui était l'inquiétude, il a clairement choisi, il y avait deux solutions, c'était quoi ? Soit se mettre à créer beaucoup pour avoir des occasions, soit ne rien concéder, et c'est clairement la deuxième solution qui a été choisie. Enfin, tu vois la façon de jouer qui a été mise en place contre le Danemark, le Pérou ou l'Uruguay, il y avait à chaque fois l'idée de plutôt rester sécurisé et de miser sur le talent individuel des joueurs. Et d'ailleurs, ça a fonctionné à chaque fois. Donc, sur le résultat, il a eu raison et c'est tout à fait du Deschamps. Il y a Varane qui place une tête, il y a Griezmann qui frappe de loin, il y a Mbappé qui éclate les adversaires en un contre un. Donc, c'est cohérent. Après, on attend toujours, en dehors de Mbappé contre l'Argentine, une performance collective offensivement où ça enchaîne des séquences brillantes. Et pour l'instant, c'est pas le cas, mais t'as même pas besoin tellement c'est bien organisé défensivement dans une Coupe du Monde où beaucoup d'équipes ont tout de même du mal à créer des grosses occasions de manière répétée.
Raphaël, tant que t'es lancé, tout à l'heure tu as fait une palette brillante sur la chaîne de l'équipe concernant Tolisso. Ouais. Félicien Grand, qui l'a peut-être vu, nous demande au final Tolisso ou Matuidi contre la Belgique. Quel est ton choix et comment tu le justifierais à la... Après, les deux matchs sont totalement différents, donc c'est sûr que, enfin, le match de Matuidi en huitième contre l'Argentine et celui de Tolisso contre l'Uruguay sont très différents parce que l'adversaire ne t'offre pas les mêmes choses.
Ouais.
Mais sur ce que t'as vu des deux joueurs et ce que t'as vu de la Belgique ensuite, est-ce que t'as une préférence?
Sur ce que j'ai vu de la Belgique, je pense que Matuidi sera tout de même plus logique parce que c'est une équipe qui sur les côtés. Demande des longues courses à ses joueurs. Alors là, l'absence de Meunier va être problématique et on verra qui le remplacera dans le couloir droit. Mais je pense que défensivement, tu es plus amené à faire des longues courses dans le couloir que contre l'Uruguay ou même contre l'Argentine. Donc ce serait plus logique de mettre Matuidi qui, dans ce rôle, je pense, va mieux qu'un Tolisso qui peut être très bon offensivement dans un rôle qui revient de la gauche. Et là, moi, je l'ai trouvé hyper intéressant dans ses déplacements. Pas forcément dans l'utilisation du ballon où parfois il se retourne dans le mauvais sens et les prises de balles sont compliquées, mais dans les déplacements, dans l'occupation de l'espace, il sait quel espace occuper, quand décrocher, quand venir à l'intérieur. Ça, il le fait mieux que Matuidi. En revanche, Matuidi, je pense, sur des efforts répétés dans un couloir ou sur l'idée d'harceler un mec, je pense qu'il sera meilleur que Tolisso qui est plus à même de le faire quand il est à l'intérieur du jeu. Ça. Donc je pense que Guillaume donnera son avis sur la manière de jouer de la Belgique, mais vu la façon d'attaquer de la Belgique qui a été vraiment forte sur les transitions en première période contre le Brésil, je pense qu'un Matuidi est plus propice dans un tel contexte tactique.
Guillaume, justement, avant qu'on passe à la Belgique. Est-ce que tu as un avis précis sur ce débat franco-français du joueur plus ou moins couloir gauche, même si dans les faits, il passe pas mal de temps au milieu près de Pogba et de Kanté?
Je pense que défensivement, enfin dans le plan de Didier Deschamps et sur la cohérence, effectivement, comme le disait Raphaël, de défendre le couloir, la présence de Matuidi se justifierait plus. Par contre, la Belgique, jusqu'à aujourd'hui, et son adaptation, mais qui ne sera peut-être pas prolongeable vu les absences qu'on aura ou qu'on pourrait avoir, puisqu'on ne sait pas trop ce qu'il en est de la santé de Chadli en vue de la demi-finale. La Belgique avait beaucoup souffert, notamment contre le Japon, sur le fait d'avoir une infériorité numérique au milieu de terrain, avec De Bruyne et Witzel qui étaient souvent amenés à jouer des 2 contre 3 contre les Japonais, avec notamment Shibazaki qui était souvent très libre et qui a pu donner beaucoup de ballons très efficaces. Alors si on a déjà souffert face à Shibazaki, qui est par ailleurs un très très bon joueur, mais je pense que si on se retrouve dans une situation où soit Paul Pogba, soit Corentin Tolisso est libéré à 30-35 mètres du but belge, parce que c'est dans cette zone-là, c'est même pas dans le rond central, c'est à 30-35 mètres qu'on avait du mal à gérer le surnombre au milieu de terrain, effectivement ça pourrait peut-être faire des dégâts d'avoir un triangle de l'équipe de France à cet endroit-là.
Mais il l'a un peu corrigé, Guillaume, cette infériorité numérique avec le losange défensivement là, contre le Brésil, où il y avait vraiment Hazard, Lukaku très haut et De Bruyne qui revenait plus bas avec Fellaini, avec Chadli qui revenait intérieur, avec Witzel. Tu vois, il y avait moins cette difficulté-là.
Oui, tout à fait. Il a vraiment bien adapté ça. Ce qui était d'ailleurs une surprise parce que autant en fait tout le monde avait la bonne composition d'équipe, enfin, le bon 11, mais personne ne s'attendait à ce plan-là dès le coup d'envoi. Mais est-ce que ce plan sera tenable alors que Thomas Meunier ne sera pas là, que Nasser Chadli ne sera peut-être pas là? Ça risque de demander beaucoup d'adaptation et il faudra voir si... Disons que si le plan peut être le même, la présence de Matuidi se justifie d'autant plus par rapport à celle de Tolisso. Mais au vu des absences potentielles en Belgique, s'il y avait un retour au 3-4-3 plus classique, je pense que Tolisso pourrait faire beaucoup plus de mal offensivement à la Belgique que ce que peut faire Matuidi, qui serait plus une assurance défensive. Et c'est vrai que si on se met dans le raisonnement de Deschamps, qui résonne peut-être plus souvent dans l'assurance défensive, la présence de Matuidi est plus logique à ce niveau-là.
Allez hop, bon, on va en profiter maintenant qu'on a déjà commencé à parler de la Belgique. Guillaume, je te laisse enchaîner sur ce match face au Brésil, t'en parlais un petit peu tout à l'heure. Alors ça passe, mais ça n'a pas été sans souffrance, contrairement à l'équipe de France. La fin de match était quand même assez compliquée. Finalement, ça dépendait plus que de la Belgique, dans le sens où le Brésil avait des occasions tellement souvent que à tout moment ça pouvait basculer. Et c'est à la fois Courtois, la maladresse des attaquants brésiliens qui fait que finalement la Belgique a tenu.
Oui, en fait, on est parti sur un plan, donc comme je le disais, qu'on n'attendait pas tellement. Et au final, c'était une idée très risquée, mais ça s'est avéré être une très bonne idée en première mi-temps, parce que si on prenait, enfin moi, en réfléchissant au match avant le début de la rencontre, je voyais pas un scénario de match où on avait des chances plus élevées que disons 25-30% de chances de se qualifier. Et ici, en fait, Roberto Martinez, il est complètement parti sur un 50-50, c'est-à-dire allez-y, attaquez, faites monter Marcelo. Lukaku, il sera dans la zone de Marcelo et il ne défend pas. Donc faites monter Marcelo, mais s'il perd le ballon, Lukaku est tout seul pour partir en contre. Et Lukaku, sur 50 mètres, il faut aller le rechercher. Donc on est vraiment sur un kit ou double complet où Martinez se dit on va faire un match d'aller-retour et tout le monde aura des occasions. Et mon gardien est meilleur que celui du Brésil et mes attaquants sont meilleurs que ceux du Brésil. C'est du moins le raisonnement qui prend. Et mes contre-attaques sont très efficaces, on l'a vu depuis le début du tournoi. Et voilà, donc ça va marcher comme ça. Et au final, la Belgique se retrouve dans une situation où elle est très forte. C'est-à-dire une situation où, à partir du moment où elle mène 1-0, c'est très difficile de venir la rechercher. Et c'est un peu un miracle de se retrouver dans cette situation, parce que c'est un autobut, alors que quelques minutes plus tôt, le Brésil a la même situation et ça finit sur le poteau de façon plus cohérente. Enfin, c'est Miranda qui fait une déviation, je pense. Donc c'est vraiment une phase arrêtée offensive brésilienne, tandis que là, finalement, la Belgique se retrouve à 2-0 avec un tir cadré. Donc le plan fonctionne extrêmement bien dès le début du match, et je pense que c'est surtout ce premier but qui sort, donc avant même le premier tir cadré, qui, qui détermine tout le match. Enfin, la stat qu'on avait beaucoup sortie avant le match, et je sais que je l'avais vu parce que c'était Raphaël qui l'avait retweeté, c'était le Brésil qui avait concédé que 5 tirs cadrés sur ses 4 premiers matchs. Bah, ici, la Belgique n'a même pas eu besoin d'un tir cadré pour marquer.
Raphaël, toi, quand on discutait avant l'émission, bien sûr, la seconde période, mais tu voulais quand même parler de la première et du plan de Martinez qui, c'était plus dur sur la fin, mais qui, pour le coup, a vraiment très bien marché, qui était assez audacieux, mais qui était porté par une vraie réflexion.
Oui, c'est pour ça, notamment, alors pour le résultat même, pas forcément, parce que le Belgique a souffert énormément en deuxième période et physiquement a plongé, parce que ça demandait beaucoup d'efforts à ses joueurs, mais j'ai trouvé que pour une fois dans cette Coupe du Monde, il y avait un coach qui avait préparé un plan très très précis pour exploiter les failles d'un adversaire. Et là, tout était cohérent et lié, et c'est pour ça que c'était intéressant. Donc la première chose, c'était en fait, Martinez n'a pas cherché à bloquer forcément le couloir de Neymar et de Coutinho, mais plutôt l'opposé, où le Brésil avait l'habitude de renverser le jeu, notamment avec deux marquages individuels. C'était Chadli sur Paulinho, il suivait à peu près tous ses déplacements, parfois sans savoir vraiment pourquoi. Alors parfois, quand Paulinho avait le ballon à 60 mètres, il allait le cadrer. Je pense que c'est quand même un des trucs les moins dangereux du monde dans le football, hein. Paulinho qui a le ballon dans les pieds à 60 mètres du but, mais pourquoi pas. Et l'autre, c'était Vertonghen qui s'occupait de Willian. Et il y avait constamment des discussions entre les deux pour savoir à quel moment on se transmet le marquage. Parce qu'une fois que les Brésiliens avaient compris ça, ils n'hésitaient pas à permuter. Il y avait parfois Fagner qui prenait le couloir. Et au moment où Fagner prenait le couloir, tu avais souvent Lukaku qui disait à Chadli, vas-y, c'est toi qui le récupère, Vertonghen récupère Willian. Et Paulinho, c'est les centraux qui doivent le contrôler. Donc c'était assez intéressant de voir comment ça fonctionnait ça. Il y avait aussi De Bruyne qui revenait plus bas. Et puis la deuxième partie du plan, c'était comment on limite les montées de Fagner pour éviter le 3 contre 2 dans le couloir. Et ça, c'était Hazard et Lukaku qui s'en chargeaient en restant très haut. Je crois qu'ils n'ont pas participé une seule fois à la phase défensive. Enfin, Guillaume et Flo confirmeront ou non. Mais même en fin de match, quand la Belgique souffrait, je ne les ai pas vus redescendre. Et alors c'était, comme l'a dit Guillaume, acquis tout double, parce que ça t'a permis d'avoir des occasions en première. Et Lukaku et Hazard les ont transformés, en tout cas les ont amenés jusqu'à la surface adverse. Par contre, en deuxième, le fait de les déresponsabiliser et de leur dire « on vous restez plus haut pour qu'on oblige au moins 3 Brésiliens à rester plus bas », ça a laissé les Belges, à 8 pour défendre. Et ça a été très très difficile en fin de match, notamment quand le Brésil a réussi cette fois à renverser, quand Chadli a plus réussi à suivre Paulinho, puis ensuite quand Renato est rentré, a été à la fois paumé par le changement et par la fatigue. Et à partir de ce moment-là, le Brésil a vraiment enchaîné énormément d'occasions sur les 20-25 dernières minutes. Et je pense que c'est là que le plan belge s'est écroulé, et c'est là que le Brésil aurait dû passer. Notamment avec l'entrée de Douglas Costa, qui a fait encore une fois une très belle entrée, qui aurait peut-être dû entrer plus tôt. Mais de voir un plan aussi précis, aussi travaillé, aussi cohérent en première période, ça m'a fait plaisir, parce que pendant cette Coupe du Monde, on avait vu peu de matchs où un adversaire découvrait des problèmes tactiques nouveaux et ponctuels à cause d'un coach qui avait anticipé pas mal de trucs. Et là, je trouvais ça bien de voir ça. Il y avait aussi l'idée d'attaquer en 3-4-3, en gros, et de défendre en 4-3-3. Enfin, il y avait pas mal de trucs, et je trouvais ça bien, en fait, parce que c'était une Coupe du Monde assez pauvre, tactiquement, aussi bien sur les projets de jeu que les plans de jeu. Et là, sur un plan de jeu, il y avait quand même une idée qui se dégageait de tout ça. C'est pour ça que j'ai trouvé ça top. Ça n'a pas non plus empêché la Belgique de concéder beaucoup d'occasions.
Florence, si on déroule le fil du match, on arrive donc naturellement en seconde période, où là, le Brésil, je ne vais pas dire joue tout seul, mais la Belgique a vraiment beaucoup plus de mal. Qu'est-ce qui change et pourquoi est-ce que le Brésil n'arrive pas à passer devant? Est-ce que c'est simplement une question de réalisme?
Ouais, bah, on peut quand même dire que c'était le grand soir pour la Belgique, dans le sens où toutes les petites choses qui se passaient dans la surface, les petits détails, des ballons qui rebondissent, des contres, etc., à chaque fois, la pièce tombait quasiment à chaque fois du bon côté pour les Belges. Donc en ça, on peut dire en effet qu'ils ont eu beaucoup de réussite, au-delà des chiffres en expected goals où on finit à 2,5 pour le Brésil et 0,5 pour la Belgique. Mais c'est aussi dicté par le scénario du match qui fait que les Brésiliens devaient attaquer. Mais en deuxième mi-temps, en fait, le vrai problème des Belges, c'est qu'ils n'arrivaient plus à ressortir. Et donc ils ont commencé à prendre les vagues d'attaque de la part du Brésil. Alors pourquoi ils n'arrivaient plus à ressortir? C'est parce que le passage en 4-4-2 a évité à Paulinho de devoir plus monter, alors que en première mi-temps, le fait qu'il y ait juste Gabriel Jesus en pointe faisait que Paulinho se retrouvait souvent à finir dans la surface, comme on avait vu dans d'autres matchs. Et là, le fait d'avoir un Paulinho un peu plus bas, le fait d'avoir toujours un Fernandinho qui était pas dans son meilleur soir, qui est même catastrophique si tu prends l'ensemble du match, mais le fait de l'avoir aussi, d'avoir ces deux mecs-là, ils ont eu moins de difficultés à contrôler De Bruyne, qui était au final le relais pour construire une attaque pour ressortir très vite. Et sinon, ensuite, bah, ça se passait dans les duels entre Hazard et Fagner d'un côté et Lukaku et Miranda de l'autre. Et même à ce niveau-là aussi, petit à petit, les défenseurs brésiliens ont un peu pris le dessus sur les attaquants belges. Même si
Miranda était très bon en deuxième fois.
Ouais, voilà. Même si Hazard a quand même terminé le match avec une stat assez folle de 10 dribbles réussis sur 10 tentés. C'est un record depuis 66, depuis qu'Opta prend les stats. Donc en gros, les Brésiliens ont un peu réglé leur problème d'équilibre en deuxième mi-temps et c'est à ce moment-là que c'est devenu très dur pour les Belges. Mais et après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que malgré les temps forts pour les Brésiliens, malgré les occasions, malgré les expected goals, il faut quand même mentionner qu'il y a énormément de Brésiliens, à part les entrants, énormément de joueurs qui ont fait soit un match moyen, moyen plus, soit un match médiocre, voire carrément mauvais. Et à ce niveau-là, un joueur comme Coutinho, par exemple, est vite tombé dans la caricature, dans sa propre caricature de celui de Liverpool quand il était encore un jeune joueur très fringant mais qui frappait un peu n'importe où et n'importe quand. Et là, sur ce match-là, je pense que ça a été une des plus grosses déceptions côté brésilien.
Guillaume, question. Alors, on peut parler de partir dans pas mal de directions, mais là, je vais en choisir une question de Charles NDA qui nous dit que la Belgique se qualifie en demi avec Fellaini, qui tend à prouver que soit on peut être dans le dernier carré en jouant à 10, soit que Fellaini est un joueur de foot. Comment est-ce que tu juges l'apport de Fellaini, qui est l'un des deux changements avec l'intégration de Chadli pour repartir sur le système qui avait permis de renverser le Japon en fin de match?
Je suis pas le plus grand fan du style de jeu de Marouane Fellaini, mais il faut reconnaître qu'en fait, il apporte quelque chose d'extrêmement rare, qui est une supériorité totale dans le jeu aérien. C'est-à-dire que j'ai écrit dans un de mes articles récemment, juste après Belgique-Japon, justement, ou après Belgique-Angleterre, que ce que Hazard fait par le dribble, Fellaini parvient à le faire par sa puissance et sa conservation d'un ballon dans les airs. C'est-à-dire qu'on peut gagner 50 mètres proprement en donnant un ballon à Fellaini, parce qu'il peut faire une amortie de la poitrine où le ballon est mort après et il parvient à lancer une conservation de balle 40 mètres plus haut que le départ de l'action, parce qu'en plus il se déplace souvent dans des zones un peu atypiques pour un joueur de ce gabarit-là. Et ici, il a non seulement récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain, je pense qu'il finit en plus le match sans prendre un carton jaune. Ce qui me semblait, je pense que je parlais avec quelqu'un après 10 minutes qui m'a dit « Fellaini va prendre une jaune » et c'est finalement jamais arrivé. Il est très précieux dans l'impact qu'il propose, parce qu'on parlait justement de la supériorité physique qu'ont pu avoir les Belges à un moment sur le match, et je pense que c'est un des joueurs qui a vraiment marqué cette supériorité avec Lukaku à d'autres moments, avec Nasser Chadli aussi qui a été très puissant. Et c'est vraiment une caractéristique de cette équipe belge qui finalement est très anglaise dans sa manière d'aimer les matchs qui font des allers-retours et où c'est finalement un peu un rouleau compresseur qui finit par s'imposer. Bah, Fellaini fait partie de ce plan-là. Alors effectivement, on a eu toute une période au début de l'arrivée de Roberto Martinez où c'était lui qui jouait avec Witzel dans le double pivot devant la défense, et quand on jouait contre des défenses très regroupées, c'était un peu pénalisant parce que Witzel n'a jamais l'instinct de jouer vers l'avant. Et Fellaini peut l'avoir, mais quand il doit faire contrôle, regarder et puis une passe, ça met environ 45 minutes. mais c'est pour ça que De Bruyne avait reculé dans le jeu à la base en s'inspirant de ce qu'il faisait à City. Mais on pouvait s'imaginer que dès que l'opposition allait être plus forte, Fellaini allait faire son retour dans l'équipe parce qu'il a cette domination physique qui est finalement presque la domination, comme je disais, qu'un Hazard peut avoir au niveau des dribbles, mais dans un autre registre qui est beaucoup moins plaisant footballistiquement. C'est un peu du basket où on met un type de 2m25 qui n'est peut-être pas le plus grand manieur de ballon à la main, mais qui fait quand même 2m25 à un moment, et s'il est dans la raquette, eh ben, il a deux fois plus de chances de prendre le ballon que les autres, simplement parce qu'il est plus grand. Donc ça marche aussi en football, et Fellaini est un peu le milieu de terrain qui prouve le mieux ça finalement, parce qu'en plus il a cette capacité à être très imposant physiquement sur une dimension de terrain très large, là où ce genre de joueur d'habitude est plutôt un joueur de position, que ce soit un neuf en pivot ou un milieu défensif très restrictif. Je vais citer Alou Diarra pour citer un exemple français et bordelais, pour faire plaisir à Florent en plus. Enfin, je ne sais pas si ça lui fera grand plaisir, mais...
Non, mais les techniques sont parfois exagérées aussi, Guillaume, sur Fellaini.
Oui.
On en fait parfois un espèce de pied carré, voilà. C'est pas le cas. Il est capable quand même de mettre le ballon au sol sur des situations qui paraissent compliquées.
Oui, exactement. Je ne pense pas que c'est un joueur qui est mauvais techniquement. Je pense que c'est un joueur qui est très lent dans sa gestuelle. Et donc, ça peut pénaliser quand on a besoin d'avoir une possession de balle très fluide. Mais c'est un joueur qui fait très peu de mauvaises passes, par exemple, ou de passes mal calibrées. Ça lui arrive assez rarement. Ça arrive plus souvent à Witzel, je trouve, ou Witzel a parfois tendance à être trop restrictif et un peu trop sécuritaire dans son jeu. Fellaini, il a les bonnes intentions, mais il les exécute simplement très lentement, du fait aussi de son corps qui est moins vif que celui d'un Hazard ou d'un De Bruyne. Et donc, c'est moins spectaculaire, mais techniquement, ça reste un joueur qui est fiable sans être extraordinaire.
Et c'est celui qui gagne le plus de duels aériens sur le match. Hein. Il est à 7, en face, Fernandinho est à 5. Donc c'est
la même chose avec sa montée au jeu contre le Japon. C'est exactement pareil. Je pense qu'il est le joueur qui gagne le plus de duels aériens alors qu'il joue, je crois qu'il joue même pas une demi-heure. Donc on utilise vraiment cette force. C'était déjà pareil contre l'Angleterre qui avait pourtant du répondant physique. Et c'est vraiment une valeur refuge. C'est pas un domaine spectaculaire, mais si on met 15 ballons aériens vers Fellaini, il en prend 12 dans un mauvais jour. Donc,
c'est un peu le rôle ingrat qu'on donne aussi à Giroud en équipe de France, où parfois tu réduis un peu ses qualités parce que tu le spécialises sur un truc dont ton équipe a besoin.
Oui, voilà, c'est vraiment José Mourinho, il dit qu'il adore les spécialistes, et ça ne m'étonne pas qu'il adore Marouane Fellaini, parce que c'est vraiment dans un domaine pas du tout footballistique finalement, parce que c'est dans un domaine qui ne se joue même pas avec les pieds, c'est le meilleur spécialiste du monde. Et il est incontestable à ce niveau-là, et c'est une domination qui est utile et que la Belgique parvient à bien utiliser, ce qui n'était pas spécialement le cas à l'époque de Marc Wilmots, où on essayait de le faire un peu tout en même temps. Et ici, on est vraiment plus sur une rentabilisation énorme de sa puissance dans les duels.
Il faut quand même se souvenir notamment de la finale de Ligue Europa avec Manchester-Ajax, où Manchester a 30% de possession, mais Fellaini est quasiment numéro 10 et tu fais que balancer loin devant sur Fellaini à chaque fois que l'Ajax va presser. Il gagne tous les duels aériens et du coup tu te retrouves en zone dangereuse sans avoir rien fait finalement.
Mais je ne sais pas si tu te rappelles, Cri, mais même Van Gaal, qui est l'apôtre du jeu de possession, enfin un des apôtres, mettait tout le temps Fellaini en fin match quand il n'arrivait pas à débloquer les situations.
Donc, ouais, même au standard à l'époque. Ouais. Fellaini montait limite en pointe dès que ça tournait un peu mal parce que ça te fait quand même une carte maîtresse. Et en plus, tu dois moins déstructurer ton équipe que quand genre Marseille foutait Van Buyten en pointe, où là tu es obligé de foutre un défenseur à l'autre bout. Là, Fellaini, selon les phases, parfois c'est même naturel qu'il se retrouve en attaque, notamment face au Japon. Il avait juste à se projeter. Florence, si on continue à se projeter, je pense que justement sur le match entre la Belgique et la France en demi-finale, on a notamment Rensar là qui évoque la Coupe du Monde des gardiens de but et le fait que ça soit peut-être le plus gros facteur décisif sur les deux premiers quarts de finale. Comment tu vois le rapport de force entre les deux équipes? Est-ce que tu as identifié des points forts belges qui pourraient faire souffrir l'équipe de France, ou à l'inverse des points forts français ou la Belgique, je sais pas, ou en gros des problèmes posés par le Brésil à la Belgique en seconde période que la France pourrait poser également? Je sais pas si tu penses à ce qu'a fait Douglas Costa et au fait que Mbappé jouera à peu près dans la même position, des choses comme ça. Comment est-ce que tu visualises un petit peu tout ça?
Le problème, c'est qu'on sait absolument pas ce que la France va faire, on sait absolument pas ce que la Belgique va faire à partir du moment où on sort d'un match où on a été surpris par le plan de jeu belge et par la mise en place de Martinez. Donc c'est difficile de se projeter. Après, tu peux juste voir comment te pencher sur les possibles match-up. Et là, c'est sûr que le Mbappé côté droit, peu importe le gars qu'il aura en face, puisque ça sera de toute façon pas un spécialiste du poste qui jouera latéral gauche. Ça sera soit Vertonghen qui est en central, soit Carrasco ou Chadli dans un système à 3 derrière. Donc déjà, ça peut être un souci. De l'autre côté du terrain, Varane et Umtiti vont quand même avoir un client avec Lukaku, je pense. Peu importe la position qu'il est sur le terrain, il va falloir se le fader. Et justement, Varane avait eu des soucis. Moi, j'ai souvenir d'un match où Varane avait eu des soucis face à Graziano Pelé, un match amical, il me semble, face à l'Italie, voilà, un attaquant assez grand, assez imposant, assez large. Et je pense que c'est le genre d'attaquant justement qui peut peut-être poser des problèmes à Varane et Umtiti. Donc ça, c'est un deuxième point important. Et puis après, ça sera la gestion du milieu. Et la clé pour les Français, de toute façon, ça sera d'abord de réussir à bloquer les transitions belges. On a vu sur ce match-là, on a vu sur les matchs précédents, que c'était une équipe qui était capable d'être très dangereuse en contre-attaque, qui était surtout dangereuse en contre-attaque même. Et là, sur ce match face au Brésil, ça s'est confirmé avec un... On n'en a pas parlé là pendant le débrief, mais un excellent De Bruyne, dans un rôle retrouvé un peu plus haut sur le terrain, et de meneur de jeu quasiment exclusif sur attaque rapide. Et il a été assez impressionnant, j'ai trouvé, même si évidemment il a un peu disparu en deuxième, parce qu'il fallait faire les efforts défensifs, et parce que le Brésil s'était un peu mieux équilibré.
Donc l'une c'était des le De Bruyne de Wolfsburg, Flo, un peu.
Même d'une partie de City, hein, quand City sort en attaque rapide, c'est toujours lui qui mène ça, et qui mène ça parfaitement. On l'avait vu aussi face au Japon, la dernière contre-attaque, qui met le troisième but avec Xabi à la fin. C'est lui qui ouvre sur Meunier, du coup, avec Lukaku qui ouvre le terrain. Donc pour moi, la vraie clé pour les Français, en tout cas, peu importe le système, mais ça va être de réussir à contrôler les sorties de balles belges. Et pour ça, il va falloir que Pogba et Kanté, qui ont déjà fait un grand tournoi jusque-là tous les deux, il va falloir qu'ils sortent encore un très gros match, parce que ce seront eux, à mon avis, qui décideront de l'issue de leur rencontre, en tout cas côté français et sur le plan de la solidité défensive de l'équipe, quoi.
Raphaël, je te laisse carte blanche. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur cette demi-finale qui s'annonce?
Bah, Florent parlait des match-up, on a parlé un peu d'Hazard tout à l'heure, qui a réussi 10 dribbles sur 10. Il y a un truc qui peut me paraître inquiétant. Après, je sais pas si les gens sont d'accord avec moi, mais alors Pavard fait paradoxalement zéro faute sur le match contre l'Uruguay. Pourtant, je le trouve assez fébrile sur les duels. Il est parfois maladroit au moment de défendre. Je sais plus, c'est contre l'Argentine qui commence très mal. Il commence par faire beaucoup de fautes, ou contre l'Australie, je sais plus. Mais il y a un match où, enfin, il y a des matchs il est vite mis en difficulté par des mecs qui n'ont pas forcément beaucoup de talent et de capacité d'élimination dans les 1 contre 1.
Alors, c'est normal, il se fait éliminer par Laxalt en tout début de match, qui centre en bout de course. Et,
c'est souvent sur les entames en plus, donc je sais pas si c'est un truc de concentration, de stress, de mise en route. Parce que c'est un déjà, je sais pas, mais sur les 15 premières minutes, il a toujours un peu de mal. Et face à Hazard, alors ça dépend comment Hazard rentre dans le match, mais je trouve que ça peut être très difficile pour lui, surtout avec un Hazard dans la forme qu'on a vu contre le Brésil, où sous pression, il arrivait à garder n'importe quel ballon dans l'élimination, le 1 contre 1. À un moment, c'est à Fernandinho, il met un grand pont là d'une violence inouïe. Je sais pas si une séquence où la Belgique contre-attaque.
Première mi-temps, ouais.
Ouais, enfin, c'était. Et après, il ouvre sur la droite. Mais voilà, sur ce début de match, je pense qu'on a vu que la Belgique avait été efficace contre le Brésil et qu'après, elle avait souffert, mais qu'elle avait finalement fait son match sur 20, 25 minutes, 30 minutes, très bien organisé. Donc je pense que ça peut être un sujet d'inquiétude. Après, c'est vrai que si tu vois le début, enfin tout l'ensemble de la compétition des deux équipes, et la régularité de Pogba et Kanté d'un côté, et les incertitudes que tu as sur le milieu belge, son organisation, les performances fluctuantes de certains, les absences qu'il y a, la maîtrise de l'axe du terrain et du cœur du jeu quand même semble promise à la France, surtout si Griezmann continue dans la lignée ce qu'il a fait contre l'Uruguay. Donc il y a des inquiétudes, je trouve, dans les couloirs, que ce soit sur la manière de les défendre et sur avec qui les défendre et contre qui, mais par contre dans le cœur du jeu, l'axe du terrain, je pense qu'un Lukaku aura beaucoup plus de mal contre des Varane ou des Umtiti que contre Miranda, qui malgré ça l'a maîtrisé en deuxième période.
D'ailleurs, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais sur le match de l'équipe de France, les quatre latéraux, c'était peut-être les quatre moins bons joueurs, sans forcément être nuls. Hein, mais sur le terrain, quand tu compares au reste, finalement, ils sont tous un peu annulés, quoi. Enfin, c'était un peu une zone où personne n'arrivait à prendre le dessus.
Après, j'aime toujours bien Hernandez. Je trouve que c'est difficile de voir un mauvais match chez lui. Mais c'est vrai qu'en effet, quand tu vois le... Il a été lui aussi assez fébrile en début de match, où il perd des ballons sous pression, il fait des fautes, il prend un carton jaune d'ailleurs, il fait trois fautes sur le match. Donc c'est vraiment les couloirs. Alors pareil, c'est est-ce que tu fais défendre Mbappé parce que tu sais que la Belgique a tendance à bien utiliser les couloirs, ou est-ce que tu te dis on le laisse plus haut parce que tu sais que ça va te rapporter offensivement, tu vois. Il y a une question vraiment sur l'utilisation d'Mbappé offensivement et défensivement dans ce match-là contre la Belgique, vu comment la Belgique attaque avec un Hazard notamment côté gauche, tu vois. Est-ce qui tu utilises pour faire des prises à deux contre Hazard? Est-ce que tu demandes à Pogba de venir vraiment proche de Hazard? Est-ce que tu repars sur un milieu où tu es vraiment plus à 3 et limite, tu dis tout le temps intérieur pour s'occuper de l'autre côté des, des De Bruyne qui peuvent se déplacer vers l'extérieur, qui est un très bon centreur depuis le côté droit, ou Lukaku qui a tendance à venir côté droit sur les contre-attaques belges. Mais encore une fois, on se projette par rapport à ce qu'on a vu contre le Brésil, et ça se trouve, Martinez va repréparer quelque chose d'autre qui sera complètement différent. Donc là, on a tendance à avoir du mal sur les previews, où là, c'est pas facilité par les coachs.
Justement, pour conclure ce chapitre, Pip de Pop, Guillaume nous demande comment est-ce qu'on voit la Belgique contre la France, avec en plus la suspension de Meunier, à la fois au niveau donc, des hommes dans le couloir et puis même du système, défense à 4, défense à 3. Je ne sais pas si tu connais personnellement des gens au sein du staff, mais toi, ton petit avis de personne qui a pu quand même voir cette équipe évoluer sur la durée depuis quelques années maintenant avec Martinez.
Bah, là où je pense que... Enfin, déjà, je ne connais malheureusement... Je n'ai pas le numéro de téléphone de Thierry Henry, là où je pense que Martinez a fait la différence depuis le début de la Coupe du Monde, c'est qu'il a été très fort dans ses adaptations aux circonstances de match. À chaque fois, on a vu, par exemple, déjà contre le Panama, on a vu une Belgique en difficulté en première mi-temps parce que Hazard était très difficile à trouver entre les lignes du fait que le Panama avait mis énormément de monde à l'intérieur. À la mi-temps, c'est Carrasco qui a joué dans un rôle beaucoup plus intérieur et Hazard a touché beaucoup plus de ballons vraiment sur le flanc en seconde période, et donc il a pu prendre de la vitesse et rentrer dans le rectangle du Panama et commencer à faire des différences. On a eu aussi une adaptation contre le Japon avec l'entrée de Chadli et Fellaini, qui était l'adaptation la plus spectaculaire parce qu'on l'a vu directement. Et alors ici contre le Brésil, simplement moi avant la rencontre je me disais Lukaku qui avait déjà eu beaucoup de difficultés contre Yoshida contre le Japon dans la surface, qu'est-ce qu'il va faire face à Thiago Silva qui est énorme dans sa surface depuis le début de la compétition. Ben, on s'est retrouvé avec un Lukaku quasiment ailier droit, et c'est quelque chose que Roberto Martinez avait déjà fait avec Everton, notamment dans un match contre Arsenal, si je me souviens bien, en mettant Lukaku un peu sur le côté. Et ici, je suis en train de regarder, et Lukaku a touché 3 ballons dans la surface sur le match, mais par contre il a eu un impact en première période surtout énorme sur les transitions belges, avec notamment ce slalom un peu improbable qu'il fait à la base du deuxième but. Et donc Martinez parvient toujours à s'adapter sur des points qui vont faire mal à l'adversaire. Et c'est pour ça que par rapport à ce que Raphaël disait sur Pavard, j'imagine très bien un registre d'Hazard beaucoup plus extérieur, donc beaucoup plus sur le côté gauche pour aller provoquer Pavard dans des 1 contre 1. Ça me semble beaucoup plus intéressant que de le laisser dans son rôle plus axial où il va se heurter à N'Golo Kanté, qui est peut-être le joueur le plus à même de l'arrêter. Et c'est peut-être le seul rapport de force où la Belgique pourrait être supérieure à la France, parce que si on met Hazard dans la zone de Kanté, je pense que ça va un peu s'annuler. Lukaku dans la surface contre Varane et Umtiti, et même sur une course de 50 mètres contre Varane, je ne suis pas sûr qu'il peut faire la différence. Et on a évidemment ce qui est le problème principal pour moi, c'est que si le milieu de terrain belge n'arrive pas à canaliser Pogba et Griezmann, et que ces deux joueurs-là sont en situation de pouvoir mettre un ballon dans la profondeur à Mbappé, qui va courir contre Yann Vertonghen. Étant donné qu'Yann Vertonghen a déjà pris 10 mètres contre Haraguchi, je crois que contre Mbappé, il va être mis en trop grande difficulté pour que ce plan-là soit fiable. Et par rapport à l'adaptation, quant à la suspension de Meunier, pour garder le système à 3, la logique serait de faire rentrer Carrasco, et de mettre soit Carrasco à gauche et Chadli à droite, soit l'inverse. Mais évidemment, ça implique qu'on ne peut pas garder le système qu'on a vu aujourd'hui, puisque Meunier jouait vraiment en perte de balle comme quatrième défenseur, ce que ni Carrasco ni Chadli ne me semblent en mesure de faire. Et l'autre alternative sur le flanc, c'est Thorgan Hazard, qui est un peu le quatrième joueur de couloir et qui est peut-être encore moins apte que Carrasco à faire les efforts défensifs.
Et est-ce que tu peux pas partir sur une espèce de défense asymétrique avec un Vermeulen beaucoup plus bas à gauche que le mec qui jouera à droite, pour justement contrôler un peu la force de Mbappé dans le couloir droit?
Oui, si, c'est possible, d'autant plus que Vermeulen est peut-être notre défenseur le plus rapide quand il est en condition. Moi, je m'attendais peut-être à le voir aujourd'hui, d'ailleurs, dans le 11 de base, pour contrer la vitesse de Willian, ce que Vertonghen a finalement très bien fait, parce qu'on a eu un Willian très effacé en première période. Mais oui, on peut s'attendre à une défense asymétrique. On peut aussi imaginer Alderweireld à l'arrière droit. Il l'a déjà fait sous Wilmots, il le faisait tout le temps d'ailleurs. Mais,
une idée de Wilmots.
Il l'a fait. Ouais, si, en plus, c'est une idée de Wilmots. Mais là, on voyait les limites offensives du plan de jouer avec. En fait, on se retrouverait à jouer avec 4 défenseurs centraux. Mais comme ça marche pas mal pour l'équipe de France, ça peut peut-être être une inspiration pour Roberto Martinez de jouer avec 4 centraux. Donc voilà, c'est très difficile de lire dans les cartes parce que, par exemple, aujourd'hui, tout le monde. connaît le 11 de base, mais quand on le voit se déployer sur le terrain en losange en première période, on se demande un peu ce qui se passe, parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, qui était resté complètement secret, alors qu'il y a quand même des journalistes qui sont là tous les jours sur place et qui sont... Certains sont relativement bien informés, mais là, c'était pas du tout sorti. Enfin, ça a été une grande surprise. Et je pense que, finalement, Roberto Martinez était l'atout principal de la Belgique sur ce match, parce qu'il peut faire cette adaptation, vraiment, comme je disais, de la micro-tactique, qui peut faire basculer les rapports de force qui semblent en faveur de la France avant le match. Mais en même temps, il semblait énormément en faveur du Brésil avant le match d'aujourd'hui.
Justement, un tout dernier mot. Imad Messoudi nous parle de la chatte à Dédé pour la Belgique. Guillaume, est-ce qu'on a la chatte à Bobby ou pas? Ou alors est-ce que c'est son talent de tacticien qui pour l'instant fait la différence?
Aujourd'hui, on a quand même eu la chatte à Bobby parce que comme je le disais tout à l'heure, ce qu'il fait, c'est parvenir à mettre un 50-50, ce qui est déjà une prouesse parce qu'avant la rencontre, je pense que personne n'est sur un 50-50. Donc il parvient à mettre un rapport de force équilibré, mais qui peut très bien se retourner contre lui. Et si le Brésil est un peu réaliste, que ce soit avant le 1-0 ou après le 2-1, moi je suis pas du tout serein. Si le Brésil égalise dans le dernier quart d'heure, je pense pas que la prolongation se passe très très bien pour la Belgique. Donc,
est-ce que ça va en prolongation déjà si ça égalise, tu vois?
Oui, c'est ça, voilà. C'est au cas où ça va en prolongation. Enfin, déjà à 2-0 à la mi-temps, il n'y a pas une immense sérénité parce qu'on sent que c'est quand même, ça fonctionne très bien, mais ça fonctionne sur un fil, donc ça peut très bien basculer dans l'autre sens dès que la chance va tourner. On a l'impression que c'est vraiment ça, et ça tient pendant le premier quart d'heure de la seconde période. Je crois que c'est capital, parce que si le Brésil marque à ce moment-là, je pense qu'il gagne le match. Et finalement, le but tombe un peu tard pour les Brésiliens, même s'il y avait encore la place pour faire la différence derrière. Mais je crois effectivement qu'il y a eu un plan qui était le bon, enfin qui était le meilleur en tout cas pour essayer de mettre le Brésil en difficulté, mais que c'était un plan qui avait besoin de chance et que la chance a été là aujourd'hui.
Et aussi juste à signaler la prestation de Courtois dans les buts,
oui.
qui sort 9 arrêts je crois sur le match, dont certains quand même très compliqués. Et pour signaler, parce que quand tu vois les matchs des deux gardiens qui ont affronté l'équipe de France en 8e et en quart de finale, Armani qui est pas très brillant sur notamment la frappe croisée d'Mbappé là pour que les Bleus passent devant à 3-2 il me semble, et ensuite l'erreur de Muslera là sur le quart. Donc faudra quand même signaler que sur la demi-finale a priori il y aura un gardien assez compétent et assez fiable jusqu'ici, parce qu'il me semble pas qu'il ait fait de grosses erreurs ou même d'erreurs sur les... Il s'est peut-être fait une frayeur, je crois, en phase de poule.
Oui, contre le Japon, il a un moment en fin de première période où c'est un centre de Nagatomo qui est repris, je ne sais plus par qui, et il la laisse filer un peu entre les jambes et il la reprend.
Ah oui, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, ouais. Mais sinon, c'est vrai que là, aujourd'hui, il fait une prestation assez impressionnante. Et du coup, voilà, il y aura ça en plus côté français. Il faudra sans doute trouver des bonnes positions de tir parce qu'en face, le gardien est quand même en grande forme, j'ai l'impression.
Ça marche. Merci messieurs, on clôt le chapitre France-Belgique pour ouvrir celui des paris.
Ah.
Les paris avec notre partenaire fidèle PMU.fr. À signaler d'ailleurs, avant qu'on passe dans la partie où on va être un petit peu, comment dire, on va se moquer les uns des autres, même si en ce moment, je crois qu'hier vous avez été pas mal.
Ouais,
c'est que,
aujourd'hui aussi.
Ouais, oui, enfin je disais hier pour aujourd'hui. Quoi, Mais... que PMU fait un espèce de challenge entre différents... Alors, il y a les twittos, je crois qu'il y a des gens qui font des vidéos YouTube, etc. Il y a RMC qui est dedans. Et que, pour l'instant, on est premier. Si ça n'a pas changé, on a encore réussi notre pari du jour alors qu'on était leader. Donc voilà, pour dire que même si on n'est pas toujours très bon ici, bah, il y a sans doute pire que nous, puisque là-dedans, on est en tête devant une dizaine de personnes. Donc voilà, se lancer des fleurs maintenant, parce que je pense qu'on sera plus premier très longtemps. Donc si je ne le fais pas maintenant, je pense que je vais le regretter.
Ouais, il faut signaler aussi que sur ce challenge PMU, personne n'avait marqué de points avant les huitièmes de finale. Voilà.
Ouais.
Donc on a fait la différence. On fait la différence à partir des huitièmes, ouais, c'est ça.
Bon, Florent, Suède-Angleterre, ton pari.
Oui. Alors, je vais quand même signaler que je sors d'un 2 sur 2 aujourd'hui. Hein. Donc, voilà.
Je savais que tu allais le dire de toi-même.
Je sais plus ce qu'étaient mes paris, mais...
L'arrogance, tu vois là.
Bien sûr. Par contre, ça risque d'être plus compliqué parce que je suis vraiment pas inspiré sur les matchs d'aujourd'hui, les deux quarts de finale restants. Donc Suède-Angleterre, je pars, mais sans vraiment trop de conviction sur la mi-temps avec le plus de buts, et je pense que ce sera la deuxième, parce que on a vu que face à la Colombie, les Anglais étaient un petit peu au ralenti en première et n'avaient pas spécialement d'occasion. En plus, ça s'est débloqué seulement sur un coup de pied arrêté. Bref, ils ont du mal quand même à amener leurs idées de jeu jusque dans la surface adverse et à se créer des occasions dans le jeu. En face, la Suède sera un bloc encore plus compact sans doute que la Colombie. Donc je pense qu'il peut ne pas se passer grand-chose en première mi-temps. Et donc qu'il y ait plus de buts en deuxième, parce qu'on espère quand même éviter le 0-0 et éviter que la rencontre se prolonge très très loin, parce que ça sera peut-être pas forcément très beau vu les deux équipes et vu ce qu'elles ont montré jusque là. Donc plus de buts en deuxième mi-temps, la cote est à 2, c'est pas énorme, mais je me dis que c'est un des paris qui m'inspire le plus, alors que sur ce match, franchement, j'ai vraiment assez peu d'idées, et même sur l'équipe qui va passer à la fin, même si j'ai un petit penchant pour la Suède, j'ose pas le jouer, quoi.
Raphaël, est-ce que toi, tu as des idées ?
Bah écoute, tu vas annoncer mon brillant pari sur Suède-Angleterre et je vais le justifier et l'expliquer.
Oui, alors l'Angleterre gagne et il y a un ou deux buts au total dans le match. Donc en gros, l'Angleterre gagne 1 ou 2-0.
Exactement. Alors c'est par rapport à tout ce qu'on avait dit sur la Suède, ma chère et tendre équipe, très bien en phase défensive, très pauvre et très limitée, en tout cas limitée à Forsberg, hein. En phase offensive, ou plutôt en transition offensive. L'Angleterre qu'on a vu, qui est capable de bien ressortir le ballon, de bien trouver des joueurs entre les lignes, mais ensuite c'est compliqué pour marquer des buts. Bon, jusque-là, ils ont réussi à gratter pas mal de pénaltys, et Kane est en train de faire son titre de meilleur buteur de la Coupe du Monde là-dessus. Donc j'imagine que si ça continue comme ça, l'Angleterre trouvera la solution soit sur un miracle de jeu vers l'avant de Ali, de Lingard, de Sterling, qui jusque-là dans ce domaine-là n'ont pas emballé la compétition, ou sur un coup de pied arrêté. Southgate fait partie des coachs de cette compétition qui ont eu de l'influence, alors pas forcément dans le jeu, parce que le jeu est mis en place à travers ce que font Tottenham et City en championnat, mais sur le coup de pied arrêté, il y a eu des idées. Je pense que contre la Suède, ce sera difficile, mais il faudra de toute façon être créatif pour libérer des joueurs face à une équipe qui défend bien ces situations-là. Donc j'imagine franchement une victoire très courte de l'Angleterre. Je pense quand même que ça sera meilleur individuellement et collectivement la Suède, et surtout plus varié. Et je pense que c'est pour ça qu'ils passeront, mais toujours dans la difficulté. Ils ont été dans la difficulté contre la Colombie. Ils ont du mal à marquer des buts, à se créer des situations de vrai danger. Donc le 1 ou 2-0, je pense, est pas déconnant.
Et donc c'est coté à 3.
Oui, voilà.
Guillaume, je vais pas te demander de Paris, mais en tant qu'observateur extérieur, quel est ton avis sur Suède-Angleterre ? Est-ce que tu penses plus comme Raphaël pour une courte victoire anglaise, ou comme Florent pour rien du tout et pour qu'il y ait une deuxième mi-temps un peu plus animée ? Est-ce que t'as une opinion sur ce match ?
Je connais pas les cotes, mais je parlais tout à l'heure avec mes compatriotes devant l'écran géant d'une demi-finale Suède-Russie. Que je voyais bien venir sur le fait que les Anglais m'ont semblé en grande difficulté, comme Raphaël le disait, pour produire des occasions de qualité. Et je pense que la Suède est peut-être le bloc équipe qui défend le mieux son rectangle depuis le début du tournoi. Ils ont juste souffert contre les Allemands, qui étaient parvenus à créer énormément de situations avec la qualité de centre de Kimmich, normalement, et je vois pas un joueur anglais qui peut donner les ballons que Kimmich a donné peut-être une dizaine de fois contre la Suède, et pour finir par les faire craquer. Donc je crois que les Suédois ont un plan bien établi et qui pourrait bien mettre fin au rêve de cette Angleterre-là, ce qui serait, je dois bien l'avouer, un petit plaisir personnel, puisque les Anglais prétendent avoir calculé pour perdre contre la Belgique, pour se retrouver dans la bonne moitié de tableau. Donc l'histoire serait belle si la Belgique se retrouve en demi-finale en sortant le Brésil, et de l'autre côté la Suède élimine l'Angleterre en quart de finale. Ça n'a absolument aucun fondement objectif ni footballistique.
Non, mais un peu de méchanceté gratuite.
Voilà, ça me semble relativement raisonnable.
En parlant de méchanceté gratuite, on va redonner la parole à Florent.
Oh, oh là là, ça a l'air sexe ce soir.
Russie-Croatie. Ouais. Ce duel de l'Est, ton avis ?
Quel lancement ! Russie-Croatie, ouais, un peu plus inspiré, même si les Russes ont réalisé l'upset du tournoi en sortant l'Espagne au tour précédent. ou est-ce que c'est l'Espagne qui s'est sortie toute seule on va pas en reparler, mais bon. Russie-Croatie, je pense que les Croates vont jouer de manière justement plus verticale que les Espagnols et vont mettre plus souvent la pression sur la défense russe parce qu'ils ont déjà des milieux qui sont beaucoup plus habitués à jouer vers l'avant avec Modric, Rakitic et peut-être Brozovic, peut-être qu'il jouera, pourquoi pas. Mais bref, ils ont quand même pas mal d'arguments au milieu pour lancer des joueurs très rapides qu'on avait pu voir, à la fois rapide et physique, avec Perisic, avec Rebic sur les côtés. Peut-être que Kramaric, qui avait été excellent, c'était face au Nigeria, il me semble, au tout début du tournoi, oui. Va revenir dans le 11 sur ce match-là, ce serait pas très surprenant. En tout cas, ce serait sans doute utile face à une Russie qui va, comme d'habitude, d'abord penser à défendre, et ensuite balancer sur Dzyuba pour essayer de gagner du terrain et avoir des occasions à la fin. Donc, je pense que la Croatie a les moyens de marquer dans les demi-temps. Alors gagner le match, je ne me prononce pas là-dessus, mais bon, si vous marquez dans les demi-temps face à la Russie, je pense que vous avez de bonnes chances de passer ce tour. La cote est pas mal pour ça parce que c'est coté à 3,80, donc ça me paraît plutôt intéressant, plus intéressant que mon pari sur Suède-Angleterre, et si ça se trouve c'est celui-là qui passera, qui sait. Mais voilà, la Croatie qui marque dans les demi-temps, et puis ensuite si vous voulez trouver des buteurs, vous avez Mandzukic qui est capable de mettre une tête. Ou alors vous avez Rebic qui est assez chaud, qui devait marquer face au Danemark et qui a vu son but enlevé par le tacle de Jorgensen. Donc pourquoi pas un but de Rebic à côté pour accompagner son avant-centre.
Voilà, donc Croatie marque dans les demi-temps 3,80. Raphaël, je te laisse conclure en beauté pour une fois. Essaye d'être bon, vas-y.
Décidément, quelle soirée difficile pour moi. La victoire de la Croatie par 2 buts d'écart, en gros, avec un handicap de -1, est cotée à 4.
Donc avec 2 buts d'écart ou plus.
Oui, voilà, c'est ça. En gros, il faudrait 2 buts d'écart ou plus pour que ce pari passe. Alors, c'est à la fois parce que, Florent et Guillaume ont l'air de voir une victoire de la Suède. Donc un Suède-Russie serait tout à fait ignoble, et j'espère que ce ne sera pas le cas, et qu'il y aura au moins une des deux équipes qui aura envie du ballon. Et pourquoi pas la Croatie ? Alors la Croatie d'abord, parce que comme Florent l'a dit, et je pense que c'est un truc qu'on avait déjà évoqué, c'est peut-être que son incapacité à contrôler les matchs l'aidera plus que le football ultra dominateur de l'Espagne, mais pas assez vertical, pas assez déséquilibrant pour créer des énormes occasions, même s'ils avaient quand même eu pas mal d'espaces gauche, mais des petits additionnés contre la Russie. Là, je pense que déjà avec Mandzukic dans la surface, avec les percussions de Rebic et Perisic en contre 1. Alors, ils auront du mal face à Fernandez qui défend très très bien, mais de l'autre côté, Kudryashov, c'est loin d'être un génie défensif, donc je pense qu'il y aura des opportunités. Et puis surtout, Akinfeev n'a pas encore fait de conneries dans la compétition, et c'est tout de même un des gardiens les moins fiables d'Europe. Il a fait des campagnes de Ligue des Champions historiquement nulles, et je pense que vu ce qu'il a produit jusque-là, et vu ce qu'on produit d'autres gardiens meilleurs que lui et qu'on fait des erreurs, à un moment, le karma doit payer, un gardien ne peut pas surperformer pendant toute la compétition, et puis Mobonoric et Rakitic ont la frappe de loin aussi pour faire des différences. On a vu déjà plusieurs fois depuis le début de la compétition des frappes de loin mettre en difficulté des gardiens avec des ballons flottants. Voilà, c'est à la fois un souhait et une devinette que je fais sur cette Croatie par 2 buts d'écart au minimum. Un instinct, quoi, tu vois,
une charade,
voilà. Non, je trouvais pas le mot, une intuition. Voilà, la Croatie par 2 buts d'écart. On n'a pas encore eu d'énormes démonstrations en quart de finale jusque là, donc je pense que ce serait bien que la Croatie le fasse, histoire qu'on ait un quart Croatie-Suède ou Croatie-Angleterre pour avoir un minimum de variété. Je pense que le Suède-Russie imaginé par Guillaume est tout à fait ignoble, et j'espère ne pas le voir.
Donc Guillaume, pas besoin de balancer des cotes, mais pour clôturer cet épisode, t'es vraiment convaincu que la Russie peut battre la Croatie, ou c'est uniquement une mauvaise blague et un scénario d'horreur que tu envisages pour en espérant conjurer le sort ?
Non, je pense en fait que la Croatie a été bien servie depuis le début du tournoi par le fait qu'un joueur, je ne sais pas si je peux citer son nom parce qu'il a joué un match visiblement un peu problématique dans la vie de Raphaël, mais un type qui joue en défense centrale et qui a joué à Lyon et qui maintenant joue en rouge.
Ah, le meilleur défenseur central de Ligue des Champions 2017-2018, oui.
Voilà, oui, exactement. N'a pas encore été mis en difficulté dans les airs depuis le début de la compétition, et que son duel avec Dzyuba pourrait le mettre un peu plus en difficulté à ce niveau-là. Déjà, contre le Danemark, on a senti qu'il y avait un peu moins de sérénité de sa part dans les duels. Et je crois qu'à partir du moment où Lovren perdrait ce premier duel, la défense croate, surtout côté gauche, me semble pas la plus fiable sur les deuxièmes ballons, les ballons qui traînent un petit peu. Et je vois assez souvent Marcelo Brozovic devant la défense avec l'Inter pour savoir que c'est pas spécialement la meilleure idée pour protéger son rectangle. Et je pense que le karma des Russes depuis le début de la compétition, que je voyais personnellement éliminé avec une triste victoire contre l'Arabie Saoudite pour se sauver, mais je les trouve, à défaut d'être impressionnants, très en réussite. Et si la chance continue à être avec eux, je les vois bien prendre le dessus sur cette équipe croate qui monte quand même pas vraiment en puissance dans le tournoi. Ils ont toujours cette un peu fâcheuse habitude d'être très forts au début, et finalement, plus les matchs passent, moins ils semblent sereins. Et contre le Danemark, c'est déjà passé tout ou près, même s'il y a eu un grand Kasper Schmeichel pour les amener jusqu'au tir au but. Et donc je pense que ça peut être difficile pour eux, même si évidemment pour le football, je préfère éviter ce Suède-Russie que je vois malheureusement un peu trop venir.
Ça marche. Merci tout le monde. Quelque chose à rajouter, Florent, Raphaël, Guillaume? Non, c'est votre moment.
Non, parce que tu as été parfait, Christophe, et je pense qu'on a été complet grâce à la manière dont tu as mené le jeu pendant ce podcast.
Ouais, c'est ça qui est bien, c'est je suis bon dans mon jeu sans ballon, c'est-à-dire je dis une phrase et puis ensuite je vous laisse parler pendant 5 minutes, c'est le rôle où je brille le plus.
Tu sais quand te taire, et ça c'est admirable.
T'as un peu fait un podcast à la Blaise Matuidi finalement.
C'est la dernière fois que j'anime ce podcast. Merci messieurs, on se retrouve demain pour donc le débrief. De Suède-Angleterre et de Russie-Croatie, les deux derniers quarts de finale. Avant une petite trêve et puis ensuite basculer sur les demi-finales mardi et mercredi. Voilà, c'est tout. À bientôt. Et puis oui, j'avais une dernière phrase que Florent me rappelle et que je vais vous ressortir tout de suite. Voilà, c'est une phrase de Pascal Duprat qui a dit sur TF1 en débrief du match de l'équipe de France. Le football, c'est la joie, ne l'oubliez pas.
Voilà. Écoute, c'est magnifique ce que dit Pascal.
Et c'est vrai que quand on voyait ces équipes, on ne l'oubliait pas.
La prochaine fois, on citera une phrase de Harry Habitant.
On peut s'arrêter là-dessus.
Oui, au revoir.
Merci et puis à bientôt.
Ciao.
Salut.
Cordialement.
Vous pensez avoir tout compris ? C'est le moment de parier sur PMU.fr, le numéro 1 du pari.